poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
Un éditeur, une collection, aujourd'hui Dire son Pérec en 53 livres de 53 pages par 53 artistes.
J'ai un ami, un écrivain américain qui s'appelle Harry Matthews, que j'ai traduit. Et dans chacun de ses livres, il met un mot qui n'existe pas. Il invente un mot, une fausse pierre précieuse, etc. Et pourquoi il l'invente ? Parce qu'il sait qu'il y a le grand dictionnaire d'Oxford recense tous les mots, même s'ils n'ont qu'une seule apparition. Ainsi, il a créé un mot. Il a créé quelque chose de parfaitement inutile, qui ne réapparaîtra jamais, mais qui aura sa référence dans un dictionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui est, la vie, c'est la vie, mais cette espèce d'ambition, peut-être démesurée, vous savez comment, c'est Balzac qui disait « je veux faire concurrence à l'état civil », moi, je veux me mesurer avec le dictionnaire.
La voix de Georges Perec, c'était le 22 septembre 1978 dans Radioscopie au micro de Jacques Chancel. Thierry Baudin-Hulin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Est-ce qu'il faut croire Perec lorsqu'il dit vouloir se mesurer avec le dictionnaire ?
Est-ce qu'il faut le croire ?
Oui.
Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est avant tout, en tout cas, c'est la première image qu'on a de lui. C'est le joueur de mots. Celui qui va effectivement triturer la langue et nous la présenter à sa façon et d'une façon ludique. Oui.
Alors vous, c'est à votre lecture de Perec que vous vous mesurez d'une certaine façon. Vous êtes le fondateur des éditions L'Œil Ébloui. C'était il y a une dizaine d'années maintenant, au catalogue de la poésie notamment. Et puis amorcé depuis le 7 mars, une collection qui annonce les 10 prochaines années de la maison. Peut-être. Perec 53, soit 53 livres de 53 pages écrites par 53 artistes, écrivains, peut-être poètes, graphistes sûrement. Et puis bon, j'imagine certains dont vous ne savez encore rien. Au programme, une sorte d'archéologie des lecteurs de Perec, autrement dit dire son Perec, autrement dit qu'est-ce qu'être lecteur de Perec ? La question étant posée à chacun, quel est votre rapport intime à Perec. À partir de quand, de quoi, est-ce qu'on peut parler d'un rapport intime avec un auteur et a fortiori avec Perec ?
C'est une question que je ne sais pas forcément la réponse à cette question. Et j'aimerais bien y répondre dans 10 ans. C'est-à-dire une fois que les 53 sont faits. C'est-à-dire en la posant à tous. Alors j'aime bien la notion d'artiste, hein, plus que écrivaine ou écrivain. Voilà, parce qu'il peut y avoir effectivement des plasticiens.
Il y a de la broderie qui s'annonce.
Oui, il y a de la broderie. Il peut y avoir de la musique éventuellement aussi. Hein. J'imagine un livre de QR code exclusivement. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses. Donc, d'une façon très large, comment toute cette diversité de création va s'exprimer et du coup, peut-être qu'à la fin, j'aurai la réponse précise à votre question. En tout cas, je l'espère et c'est le souhait que j'ai.
Est-ce que ça aurait pu être un autre ? Ou plutôt, est-ce que ça n'aurait pas pu être un autre ?
C'est une excellente question parce que je me la suis souvent posée. C'est-à-dire que cette question du rapport intime à l'œuvre d'une autrice ou d'un auteur, je pense en fait qu'elle doit se poser pour tous les autrices et les auteurs. Mais je me dis que pour Perec, elle se pose plus particulièrement, comme si il y avait un rapport un petit peu plus familier avec lui. C'est-à-dire qu'on crée une famille autour de lui ou de son œuvre, et ça touche peut-être un certain nombre de personnes plus importantes peut-être que d'autres autrices ou auteurs.
Non, on va essayer de creuser ça, ouais. Justement. C'est ce que vous essayez de débrouiller avec le deuxième numéro de la collection que vous signez. Ça s'appelle Trajet Perec. Un trajet en 53 pages, donc, et 53 étapes, notes, chapitres, fragments. Vous y détaillez le trajet de votre projet éditorial, autant que votre propre trajet pérequien. Alors, le trajet pérequien, on y reviendra. Le projet, lui, commence avec une émission de radio. Mi fugue, mi raisin. On est quelques mois avant la disparition de Perec sur France Culture en 81. Au micro de Bertrand Jérôme, le poète oulipien Jacques Bains propose à Perec de faire l'inventaire des 50 choses qu'il ne faut tout de même pas oublier de faire avant de mourir. Il en listera finalement 37. Alors, on a fait un petit montage, pas tout à fait dans l'ordre, de quelques-unes de ces propositions.
Pour commencer, il y a d'abord des choses très faciles à faire, des choses que je pourrais faire dès aujourd'hui. Par exemple, faire une promenade sur les bateaux-mouches. Ensuite, il y a des choses un tout petit peu plus importantes, des choses qui impliquent des décisions de ma part, des choses dont je me dis que si je les faisais, elles me rendraient peut-être la vie plus facile. Par exemple, me décider à jeter un certain nombre de choses que je garde sans savoir pourquoi je les garde. Ensuite, alors, il y a des choses qui sont liées à des rêves de temps ou d'espace. C'est un gros bloc. Aller aux îles Kerguelen, ça c'est, c'est un peu... Ou alors, si c'est pas les Kerguelen, ça pourrait être Tristan d'Acunha. Ça c'est un nom qui me plaît beaucoup. Il n'y a pas de E dans Tristan d'Acunha, d'ailleurs.
Alors que dans Kerguelen,
dans Kerguelen, il y en a. Ah, puis une chose que je ne sais pas si on peut le faire, mais qui fait référence à une carte postale que j'ai reçue un jour, qui est aller du Maroc à Tombouctou à dos de chameau en 52 jours. Il y a quelque part dans le sud marocain, il y a sur un mur, on voit une affiche où il y a marqué Tombouctou 52 jours, et puis des petits chameaux.
C'est la fameuse route des esclaves, non ?
Je ne sais pas ce que c'est comme route, mais enfin, ça doit être 52 jours à dos de chameau. Enfin,
ça doit être épuisant.
Ça doit être épuisant. Si on part avec une secrétaire, on peut dicter la chartreuse de Parme, puisque c'est exactement le temps qu'il a fallu pour écrire la chartreuse de Parme.
Cet inventaire et celui de Jacques Bains font l'objet d'une retranscription qui ouvre votre collection, Thierry Baudin-Hulin. Commencez par ça, au-delà de commencer par la voix de Pérec, évidemment, mais commencez précisément par cet inventaire-là. C'était commencer par quoi ?
Ah, je voulais un Pérec pour commencer. Il me fallait Pérec pour ancrer déjà la collection et je voulais que ce soit lui qui l'ouvre, quoi. Donc, il y a des inédits de Pérec, mais voilà, ils sont pas forcément pour moi et je sais que le Seuil y a déjà travaillé et continuera à suivre éventuellement de telles éditions. Mais, ouais, j'ai eu cette idée de retranscrire cette émission-là. Alors au départ il y avait que c'est la transcription de Pérec, mais c'était un petit peu faible, ça faisait pas mes 53 pages. Et puis j'ai reconstitué toute l'histoire de cette émission de France Culture, et, ou alors avec Jacques Bains évidemment, mais il y a aussi Bertrand Jérôme d'ailleurs, un grand de France Culture et notamment le créateur des Papous dans la tête.
Qui rit beaucoup, là, qu'on entend beaucoup rire dans cette émission.
Oui, qu'on entend beaucoup, oui, tout à fait, et qui est devenu ensuite un intime de Pérec quelques années justement avant la disparition de Pérec. Et je voulais reconstruire cette histoire radiophonique assez complice entre les trois hommes et avant de commencer véritablement la collection.
Alors, il y a un petit lien quand même, au-delà de ce qu'on vient d'entendre, il y a un lien évidemment avec votre programme. 52 jours pour écrire la chartreuse de Parme, ou peut-être 53, les 53 jours qui donneront le titre au roman inachevé de Pérec, hein, à son dernier roman. 52 ou 53, c'est le nombre ou c'est l'hésitation qui compte ?
C'est le nombre. C'est le nombre, mais... Il pourrait y en avoir un petit peu moins, il pourrait y en avoir un petit peu plus, c'est pas très grave, ça donne un ordre d'idée. C'est pas les 50 choses à faire avant de mourir, ça pourrait être 52, ça pourrait être 53, ça pourrait être un peu moins. Non, c'est 5, voilà. Il fallait un nombre emblématique et c'est le 53 qui est devenu emblématique et l'empreinte même de la collection. Alors oui, ça fait référence, donc mon dernier roman inachevé et publié de façon posthume de Georges Perec qui s'appelle 53 jours, qui lui-même fait référence, et bien on vient de l'entendre, à cette histoire de l'écriture de la chartreuse de Parme en 53 jours.
Dictée.
On s'en fout. Oui, dictée, oui. En plus, oui. De Stendhal. Et puis, ce fameux panneau qu'on trouve dans le sud marocain, à Zagora notamment, qui indique la distance à dos. Alors, c'est marrant, Pérec dit toujours chameau, mais ce sont des dromadaires, sur l'image, de ces chameaux et qui, voilà, la distance en 53 jours pour arriver à d'autres dromadaires à Tombouctou.
Parce que ce 53 à vous lire est devenu, a fini par devenir un peu une sorte de quasi obsession, ouais, pour vous, vous le voyez un peu partout, et en même temps vous écrivez, plus j'y pense, plus il a une symbolique personnelle dans le 53, chez Pérec. Parce qu'on pourrait s'attendre, on connaît voilà, son intérêt pour le 11, pour le 37, pour le 73.
Oui, il y a déjà eu très vite, il y a eu des études là-dessus, sur ces chiffres emblématiques dans l'œuvre de Pérec. Le 53 n'a pas tout de suite été sorti, mais il est sorti. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, du tout. Hein. Bernard Manier, un grand universitaire, qui le premier qui s'est intéressé à l'œuvre de Pérec, l'avait déjà relevé. Ça a été repris ensuite par d'autres universitaires.
Mais vous, qu'est-ce que vous y voyez de si personnel, hein?
Le 5 est la quintessence, le 3 est la triunité, le 5 et 3 ça fait 8, on est sur des principes peut-être d'éternité aussi, il y a tout ça derrière et on pourrait creuser davantage.
53 jours pour écrire donc la Chartreuse de Parme ou 52, 10 ans annoncés pour le projet Pérec 53, puisque vous dites que le dernier numéro de la collection devrait paraître aux alentours de 2033. Prévoir une collection, prévoir de publier 53 livres, c'est aussi un emploi du temps.
C'est un projet qui est effectivement programmé dans le temps, que je me fixe. Maintenant, 10 ans, je ne sais pas. Si c'est 9, ça sera 9. Si c'est 12, ça sera 12. Ce n'est pas très important. Je me suis fixé en tout cas d'en sortir 6 par an. Alors si vous faites 6 fois 9, 54, on y arrive.
Hein. 3 plus 3.
Hein, etc. 3, 6 par an, 3 plus 3. Oui, alors 3 au printemps, 3 à l'automne en même temps. Je suis parti sur cette base-là. Je m'aperçois déjà en commençant que c'est un gros travail. On verra. On verra si je tiens la cadence.
Pourquoi maintenant? Parce que vous entrez littéralement en Georges Perec au début des années 80 avec la lecture de La vie mode d'emploi, on y reviendra. Vous lui avez consacré un mémoire étudiant de 153 pages par ailleurs. Vous avez nommé votre maison d'édition L'œil ébloui en référence à un livre préfacé par Perec en 81. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il a fallu attendre pour que ce projet-là, un peu fou, il faut bien le dire, que vous vous y autorisiez,
ouais,
à ce projet-là.
C'est ça, ouais, c'est autorisé. C'est une sorte d'aboutissement. Alors, c'est un aboutissement qui commence. Hein. Il faut les faire maintenant. Mais un aboutissement éditorial, peut-être. C'est-à-dire que c'est mêlé, en fait, mes deux grandes passions. Alors, ma passion pour Georges Perec, on va y revenir peut-être, mais ma passion pour l'édition. En fait, je fais l'édition depuis que je suis tout petit. Je me souviens qu'à 12 ans, je faisais des petits journaux. Un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait, c'est une machine à écrire. C'est ma marraine qui m'a offert une machine à écrire. Donc, ça me permettait d'écrire, certes, mais ça me permettait de fabriquer aussi des livres. C'est-à-dire de la mise en page, déjà, rien qu'avec la machine à écrire. Je me aperçois que je fais de l'édition depuis que j'ai 12 ans. Alors, en véritable, des maisons d'édition, j'en ai fait deux, enfin j'ai participé à deux. Un projet associatif dans les années 2000 qui s'appelait L'Escarbille, où avec une bande d'amis, on avait créé cette maison pour publier des premiers romans. Et puis, on a tenu pendant 10-12 ans. Et puis après, je voulais un projet un peu plus personnel, donc j'ai créé L'œil ébloui en 2013. Mais voilà, les 10. Et maintenant, c'était comment mêler à la fois la passion éditoriale, qui m'a toujours mené, avec la passion pour un écrivain. Les deux étaient parallèles, et à un moment, je les ai fusionnés. Et j'ai l'impression que ça, ma dernière expérience éditoriale, ça va être celle-là, tournée autour, effectivement, de ce projet.
Vous vous interrogez d'ailleurs sur la nature de votre lien à Pérec, et donc sur même la nature de la lecture, dans le fragment 18, hein, titré « Fan », vous détaillez les quatre niveaux d'appartenance au fan club de Pérec, étant entendu évidemment que vous avez atteint le stade ultime d'admirateur émérite. Est-ce qu'il faudrait se dégager de ce que vous imaginez même entrevoyer comme potentiellement du fétichisme ou de l'idolâtrie? Est-ce qu'il faut s'en dégager de l'admiration béate?
Oui. Oui, oui. Et c'est d'ailleurs, c'est amusant que vous m'en parliez parce que j'ai reçu récemment je reçois déjà des sollicitations pour la collection et on est, certains textes sont effectivement dans cette admiration un petit peu béate. Et oui, il faut s'en dégager. Alors, c'est vrai que je les aide pas puisque je leur donne malheureusement des bâtons pour se battre parce que j'explique ce que peut être le fétichisme et je suis pas le seul collectionneur comme ça de toutes les choses liées à Pérec. J'ai même vu des collectionneurs beaucoup plus forts que moi récemment sur Facebook. Mais oui, il faut s'en dégager. C'est pas de l'admiration que j'attends. C'est simplement sa simple lecture. Et même si on n'aime pas, à la limite, ou même si on aime moins, ou même si à un moment, ça, Pérec a été là, mais pas forcément de façon admirative. Oui, il faut s'en dégager.
Parce que qu'est-ce que ça pourrait dire de vous, alors même si vous essayez de vous en dégager, mais cette admiration folle que vous nourrissez. Il y a une petite note dans votre trajet Pérec qui dit « Mais bon sang, c'est quoi ce manque en vous ? Allez hop, vous avez 53 pages et autant de temps que vous voulez. »
Oui, bah c'est se dégager du jeu, en fait. Enfin, du jeu GEU, pour aller peut-être vers le jeu JE. Se dégager du jeu, justement, de cette maniaquerie, effectivement, un petit peu compulsif, pour aller creuser davantage et aller effectivement chercher le plus profond de soi, le plus caché. Et qu'est-ce qui va chercher Pérec véritablement au-delà du ludique ? Parce que dans les années 80, et même quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise, 80-90, quand les études péréquennes ont commencé, on était très marqué sur le Pérec ludique, le Pérec oulipien.
Sur le jeu, JEU.
Mais c'est insuffisant. Enfin, ça fait pas une œuvre. Ça tient pas dans le temps. C'est derrière le JEU, qu'est-ce qui se cache profondément et qu'est-ce que Pérec lui-même a été chercher dans sa propre histoire à travers ses contraintes, à travers ses façades. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces façades, comme derrière la façade de la vie mode d'emploi, d'ailleurs, c'est amusant.
Alors, il y a ça et des outils d'écriture. Pour le moment, ont paru donc un numéro signé Pérec et Binns, le vôtre, celui de l'écrivain François Bon, qui lui tourne autour d'espèces d'espace, et puis celui de Yokna, qui est l'agence qui a créé la titraille, la typographie de toute la collection. Et puis, on attend évidemment les numéros suivants. Et dans Espèces d'espace, François Bon, il parle de la machine même d'Espèces d'espace comme un outil pour écrire soi, donc un appui pour le chemin autonome de l'écriture. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui expliquerait justement cette telle présence de Pérec, c'est-à-dire comme s'il avait fourni d'une certaine façon des outils d'écriture.
Il a fourni des outils d'écriture, oui, mais il a fourni aussi des outils d'introspection, me semble-t-il aussi. Hein. Pérec, je dis dans mes notes à la fin de mon livre, Pérec invite à la réflexion. Alors c'est à la fois penser et se voir, la réflexion. Hein. Et c'est ces outils-là qu'il a offert. Après, c'est un magnifique tremplin, effectivement, pour l'écriture. François Bon l'exprime très bien à partir d'espèces d'espace. Mais au-delà des ateliers d'écriture, il y a aussi l'écriture sur soi, quoi, hein, à travers tout ça.
Dans Trajet Pérec, Thierry Baudin-Hulin, vous listez, entre autres choses, les noms auxquels vous pensez pour votre projet. Paul Auster, Pascal Quignard, Annie Ernaux, à qui vous écrivez une lettre impeccable, d'ailleurs, je dois le dire. Laissez sans réponse, ce qui vous donne l'idée, éventuellement, d'un numéro de la collection qui dirait Annie Ernaux en lectrice de Pérec. Comment est-ce qu'elle se construit cette liste rêvée ou pas d'ailleurs, ou peut-être même cette contre-liste, parce que j'imagine qu'il faut penser aussi à ce que vous ne voulez pas.
Juste un mot sur Annie Ernaux pour rectifier. Effectivement, j'ai dit qu'elle n'avait pas répondu. Mais
entre-temps, elle a répondu.
Et oui, je lui ai envoyé mon trajet Pérec et elle m'a très gentiment répondu. Elle m'a fait un très gentil mot et elle s'étonne qu'elle ne m'ait pas répondu justement parce que peut-être que la lettre s'est perdue. Et enfin, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais elle le regrette de ne pas avoir répondu. Et elle m'a fait un très gentil mot et elle m'a très encouragé aussi pour la collection. Votre question, c'était sur
cette liste rêvée ou cette contre-liste.
Alors oui. Alors, je cite volontairement Ernaux, Paul Auster, voilà, peut-être les noms un peu inaccessibles que j'aimerais avoir, mais voilà, même si j'abandonne pas. Et puis, c'est vrai que avoir un ouvrage qui serait Annie Ernaux, électrice de Pérec, écrit par quelqu'un d'autre, ça m'irait très bien. Paul Auster, il est peut-être encore en contact, même s'il est un peu fatigué, mais voilà, c'est un joke de donner ces noms-là parce que tout lecteur de Pérec m'intéresse, en fait. Aussi bien la personne la connue que la personne inconnue ou moins connue. J'aimerais bien, par exemple, que des élèves... Je sais que Perec est étudié dans les collèges et les lycées. J'aimerais bien travailler avec un enseignant ou une enseignante sur comment aujourd'hui un gamin ou une gamine de 15-16 ans s'approprie W ou le souvenir d'enfance. Et c'est leur lecture qui m'intéresserait aussi. Donc ça peut être le lettré, comme la personne qui connaît moins. Voilà. Je veux une suite, une diversité de lecteurs dans la collection. Ouais.
Poésie et ainsi de suite, Manu Farine.
Et aujourd'hui à la technique, Sébastien Royer, à la réalisation Delphine Caravec avec Luc-Jean Reynaud, avec la collaboration de Virginie Leduo et Juliette Mouellic, et avec nous Thierry Baudin-Hulin, poète et écrivain parfois, mais aujourd'hui en tout cas éditeur, fondateur des éditions L'Œil Ébloui. Au catalogue, un programme péréquien annoncé, soit 53 livres de 53 pages par 53 artistes. Et puis en bon péréquien, on se retrouve après quelques notes de Schoenberg. Thierry Baudin-Hulin, au fond, ce que vous cherchez, c'est d'une certaine façon à élucider, à épuiser, à percer, qui est un mot que vous utilisez souvent, ce qui vous lie...
C'est une anagramme de Perec, percer.
Bien sûr, bien sûr. Ce qui vous lie à Perec, par la lecture d'autres auteurs qui eux-mêmes élucident et épuisent ceux qui les lient à Perec. Est-ce que d'avoir mis en route ce projet, d'avoir commencé à travailler des textes comme éditeur, est-ce qu'il vous semble avoir... clarifiez un peu votre Perec.
J'ai clarifié ce que je voulais dans la collection. Je ne sais pas si j'ai clarifié mon Perec, mais au moins, aujourd'hui, je sais un peu plus ce que je veux dans la collection, ce que je demande aux autrices.
Mais est-ce que vous savez un peu mieux quel lecteur vous êtes ?
Non.
Et ce que Perec vous a fait ?
Oui, non. En fait, je dis non parce que j'attends avant... Je l'écrirai, mon Perec. Hein. Je ne sais pas si ça sera le 53e ou le 54e ou le 52e, mais je l'écrirai, mais... Ça va nécessairement tourner autour des questions liées au manque, à l'absence, peut-être à la disparition qui n'était pas prévue, enfin des choses de ce type. Hein. Et là, il va falloir creuser davantage.
Hein. Alors vous avez commencé à creuser un petit peu, si vous voulez bien nous en lire un extrait.
Oui, alors c'est les tentatives pour essayer de comprendre pourquoi la collection. Hein. Après, là, ludique. Donc pourquoi donc ? Parce qu'il est beau, qu'il a une de ses têtes, c'est ça. Parle de son physique, ça va passionner. Parce qu'en 15 ans, il a écrit une œuvre considérable, que c'est le plus grand écrivain de la fin du XXe siècle. Et alors ? Bah, qu'il y a des œuvres qu'on a envie de faire partager au plus grand nombre. Oui, mais bien sûr, mais pas que celle-là. Pourquoi elle, particulièrement ? Parce qu'elle m'impressionne. Pourquoi cela ? Parce qu'on a envie d'écrire comme lui. Ah bon, c'est ainsi que tu vois les choses. Pas très convaincant, ça t'apporterait quoi ? Un peu hors sujet comme idée, non ? Ses livres touchent l'âme. Oula, tu vas fort là. Je crois à l'universalité de son œuvre, c'est-à-dire, tu développes, parce que toi aussi, lecteur, hypocrite, que vient faire Baudelaire ici, tu patauges ? Avec lui, tous les possibles s'ouvrent. Je lui formule, mais quoi d'autre ? Quel possible ? Il donne les clés de la littérature. Tu délires, là, de l'écriture. Mais dis comment et je reviendrai te voir. Parce que son œuvre, plus que n'importe quelle autre, vas-y, poursuis, atteint le plus profond de nous-mêmes, qu'elle révèle les failles et nos blessures, qu'elle remue le plus caché, qu'elle met à nu nos manques, qu'elle cherche à dévoiler, peut-être à réparer des traces égarées. Ah, c'est mieux, beaucoup plus intéressant, tu y es presque. Alors j'ai décidé de demander à 53 artistes de me dire le rapport personnel et intime qu'ils ont avec la vie et ou l'œuvre de Georges Perec.
Merci. Qu'est-ce qu'il a réparé chez vous, Perec ?
Je répondrai plus tard à cette question-là, sincèrement.
Alors, on revient à votre première lecture, puisqu'on parle d'archéologie de lecture, c'est par la vie mode d'emploi que vous commencez, la lecture de Pérec, et vous écrivez « Je ressens une grande tendresse pour ce jeune homme d'alors, son entrée en littérature si récente, son approche de Pérec si confortable ». Qu'est-ce que c'est qu'une approche confortable ?
Parce que je vais m'appuyer sur les débuts de la recherche sur Pérec. Je vous citais Bernard Magnier tout à l'heure. Je me suis appuyé sur les travaux de Bernard Magnier et de ceux qui commençaient à être avec lui en tant qu'étudiante ou étudiant. Et je vais m'appuyer sur les trouvailles de l'époque, donc les premières trouvailles liées au fameux cahier des charges de la vie mode d'emploi qu'on connaît pas encore. Je m'appuie là-dessus, je vais pas plus loin, je développe pas plus. Et donc c'est propre, c'est sérieux, mais il y a rien d'original dans ce que je crée alors.
Qu'est-ce qui vous a fait ce texte, ou plutôt qu'est-ce que cette première lecture vous a fait
de la vie mode d'emploi?
Oui. Qui n'est, j'imagine, pas la même que la deuxième, la quatrième, la douzième, je ne sais pas la combien de
temps. Au début, j'ai vu un foisonnement d'histoires, tout d'un coup, l'imaginaire qui multiple qui pouvait se déployer. Et puis, je trouvais que c'était aussi un livre très graphique, la vie mode d'emploi. Et là aussi, je rejoins encore mon amour du livre ou de la fabrication, les différentes polices de caractère utilisées, les ornements typographiques, les reproductions, les cartographies. Puis, je sentais un jeu permanent. Il y avait tout ça en même temps, et c'était beaucoup.
Vous vous souvenez de cette première lecture? Quand? Où? Comment?
C'était entre Rouen et Paris, c'était un petit peu dans le métro, c'était là. Il y a eu là un peu de lecture, la vie mode d'emploi dans le métro. Je souris parce que Anne Savelli, que je vais publier à la fin de l'année, dans son ouvrage, parle aussi de la lecture de la vie mode d'emploi dans le métro. C'est amusant. Pourtant, c'est un gros livre. C'est pas vraiment le livre qu'on emporte dans le métro, en plus.
Alors, parfois, vous dites quand même qu'il peut y avoir une forme d'inconfort, en tout cas pour vous, à lire Pérec, qui parlait d'angoisse. Qui dit aussi que Pérec ne vous laisse pas tranquille. Hein. Qu'est-ce qui peut vous inquiéter chez lui?
Non, c'est pas ce qui m'inquiète, c'est encore une fois essayer de comprendre. C'est essayer de comprendre comment on passe du ludique au personnel. Et c'est cette question-là qui m'anime. Et dont j'ai pas encore la réponse, je le répète.
Ça veut dire qu'il faudra revenir dans 8 ans, oui. 9 ans, 10 ans, à ce moment-là, quand vous aurez terminé le projet et que vous aurez fait votre Pérec à vous.
Oui, oui, je vous remercie de votre invitation, je prends rendez-vous.
Vous avez pris note.
Oui.
Peut-être une dernière petite question, vous allez me dire, je vous le dirai la prochaine fois. Qu'est-ce que vous avez caché dans votre texte et qu'on n'aurait pas su lire dans Trajet Pérec?
Je crois que j'ai rien caché. J'ai essayé de dire ce que je veux pour venir, que je veux pour la collection encore une fois. Ce que certains, quand on me sollicite là, ne perçoivent pas encore. Et je voudrais déjà résoudre cette question-là pour qu'on me propose des choses qui correspondent vraiment au projet.
Votre Trajet Pérec est disponible aux éditions L'Œil Ébloui, ainsi que les inventaires de Jacques Binz et Pérec. Le texte de François Bon, ici commence l'espace, celui des graphistes de Yokna, en attendant ceux d'Anne Savelli, d'Antonin Crène, de Claro. Thierry Baudin-Hulin, merci infiniment d'être venu nous en parler. J'ajoute évidemment que la très belle série documentaire sur les lieux de Georges Pérec de Claire Zalk est disponible en podcast sur le site de Radio France. Poésie et ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix L'Hebdo que vous pouvez podcaster, partager sur le site de Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous. One day exactly what you are. Just keep your head.